Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Au moment de la nuit de noces, dans certaines régions pachtounes d'Afghanistan, une dame savante et sage, qu'on appelle je crois Tangor, est mandatée auprès des jeunes mariés pour leur donner des conseils pratiques et autres recommandations avisées. La dame reste à leur côté, dit-on, rassure la jeune fille effrayée et ignorante, et le jeune homme tout aussi impressionné. L'histoire ne dit pas jusqu'où vont ses conseils, si elle y met vraiment du sien. Dans une version édulcorée, qui doit bien exister de temps en temps, la dame ne veille pas uniquement au bon déroulement des événements en ressortant de la chambre avec la preuve que la fille était toujours vierge. Elle initie aussi l'homme au secret du plaisir féminin. Sa sagesse et son expertise permettent aux jeunes époux de découvrir leur corps et de se connaître mieux. Le temps de l'initiation remplace celui de la préparation. Les jeunes filles occidentales ont au contraire tout le temps et la documentation nécessaire pour se préparer à leur première fois. À 12 ans parfois, elles ont lu, vu et entendu tout ce qui était possible et imaginable sur le sujet. À 15 ans, elles ont encore approfondi la question et sont en théorie prêtes pour cette première expérience. Il arrive qu'elles anticipent même l'écart entre la théorie, les images et la pratique. C'est ce moment-là qui nous arrête aujourd'hui, ce temps de l'anticipation, de la représentation plus ou moins fantasmée, de l'attente et comment elle travaille. Ça s'appelle « Se préparer ». Il y a deux histoires. D'abord, une jeune fille qui raconte comment elle se prépare à sa première fois. Et ensuite, l'histoire d'un homme accompli qui s'est longtemps préparé à monter à la capitale, à conquérir Paris. Un homme d'un autre siècle, avide de culture, de savoir, mais revenu, lui, de ses rêves et de ses fantasmes. Se préparer, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture. Et ce sont deux histoires racontées par Sylvie Coma.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 17 ans et demi. Et je suis quelqu'un de très rare parce que je n'ai jamais eu de petits copains. Donc, comme je le disais, c'est très rare à notre époque. C'est aussi un peu la honte parce que... quand on demande aux autres filles ou aux autres garçons quand était leur premier baiser, eh ben j'ai toujours peur qu'ils me posent la question parce que je n'ai jamais embrassé de garçon, je n'ai jamais caressé les cheveux d'un garçon, je n'ai rien fait avec un garçon et je ne veux pas avoir à mentir non plus quoi parce que ça veut dire qu'on n'assume pas voilà. Mes premiers, on va dire, émois, envolés lyriques, très bovariesques, c'était quand j'étais petite. C'est complètement ridicule, mais vraiment, quand j'y pense, je regardais Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est un passage, en fait, il y a Christian Clavier qui flash sur une égyptienne très belle, avec des longs cheveux, une longue tresse, vraiment, mais magnifique, avec du maquillage, du rouge à lèvres, une peau de satin, des grandes mains. Et en fait, il y a un passage, il est comme ça et tout, et puis tout à coup, son regard croise celui de la jeune égyptienne, et puis tout à coup, il y a la musique qui s'enclenche. Ti am, ti am. En plus, il répète toujours la même chose, c'est complètement ridicule. Enfin, bon, bref. Et dans ce passage, il caricature complètement les coups de foudre. Et on voit la jeune égyptienne qui se retourne au ralenti avec ses cheveux qui se balancent contre son épaule et qui tombe. Et il y a des paillettes qui tombent du ciel et il y a du vent dans les cheveux. Mais vraiment, mais c'est fait exprès. Et moi, j'adorais ce passage parce que je le trouvais magnifique et je voyais pas l'ironie derrière. Et puis y avait tous les autres qui rigolaient comme des baleines et moi j'adorais ce passage, mais vraiment. Parce que j'imaginais déjà le mythe des cheveux longs, pour moi, qui est les cheveux crépus et qui ne volent absolument pas au contact du vent. C'était quelque chose de magnifiquement sensuel, de très féminin. Et puis bon, moi, qui pour l'époque n'était pas très sensuel, j'avais imaginé ma première fois, j'aurais voulu être comme l'Égyptienne ou telle Magdalène, ses cheveux tombant en cascade sur sa poitrine. Tu sais, comme Lady Godiva aussi, ou comme Réponse, enfin bon. Quand j'étais vers le collège, tout ça, je sais pas moi, 5e, 4e, j'avais pas l'air de penser que la première fois que je le ferais serait un moment incroyable pour moi. Parce que je ne voyais pas concrètement ce que ça pouvait être. Mais encore une fois, dans les films, c'est très romancé, c'est très propre. Mais je me rappelle quand j'étais petite, j'avais vu un film qui m'avait beaucoup plu. C'est Flashdance. Donc l'actrice principale qui est danseuse dans une boîte de nuit, qui s'entraîne chez elle, et il y a une musique derrière. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Un truc comme ça, bon. Et pendant ce passage, donc pendant toute la chanson, elle s'échauffe, elle danse, elle s'entraîne au grand écart, elle s'assouplit, elle saute, elle fait beaucoup d'exercices très physiques. Elle avait de la sueur qui perlait sur son visage, ses cheveux en bataille, qu'elle secouait énergiquement. Ses gouttelettes de sueur étaient éjectées un peu partout. Et c'était très sensuel comme danse et en même temps très vrai, très spontané. C'était pas surfait. Elle dansait avec passion. Puis elle avait pas de chaussons, elle était pas précieuse, elle avait pas de chignon. C'était le simple nécessaire, mais elle était tellement belle. J'avais enfin la vision d'une femme très épanouie et de voir une belle femme comme ça danser, mais de tout son soul, comme jamais, sans complexe, et ben ça m'a préparée psychologiquement à ce que sera ma première fois. Parce que tout bonnement, le jour où t'as décidé de passer à l'acte, si tu veux que ça se passe bien en tout cas, faut être bien dans sa tête, faut être bien dans son corps. Et il ne faut pas douter de soi, il faut avoir des certitudes, faut pas avoir peur. Je pense que ça m'a influencée parce que, ça m'a permis de prendre conscience, moi, de mon corps et d'apprécier les parties de mon corps qui étaient belles et qui me paraissaient, montrables. Je pouvais, en gros, envisager que montrer ces parties-là de mon corps me ferait plaisir. Si j'avais prévu de faire l'amour avec un garçon que j'aimais beaucoup, c'était une manière de me dire le jour où je le ferai, je serai contente d'être à poil, en gros. J'ai une vision très particulière en fait de l'acte sexuel. Parce que comme je suis inexpérimentée, je crois voir à peu près ce que ça peut être. Enfin non, en fait, je sais pas. Donc là, évidemment, comme j'arrive à une période charnière où j'ai 17 ans et demi quand même, du coup, j'essaie de me documenter un petit peu, si je puis dire. Et donc comme j'ai beaucoup d'amis qui l'ont déjà fait. Il y en a qui me racontaient tout simplement leur première fois, comment ça se passait. Et je me souviens qu'il y en avait plusieurs qui ne ressentaient pas de plaisir, qui avaient mal, en fait. Et ça ne me fait pas peur du tout parce que ça m'intrigue. J'ai pas peur d'avoir mal ou de saigner ou de regretter parce que je sais que le jour où je le ferai, mon copain... j'aurais vraiment confiance en lui, hein, parce que je sais que s'il y a un garçon qui tombe amoureux de moi, ce sera sincère. Du coup, quand on va faire l'acte, on va quand même être obligé d'être un petit peu sensuel quand même pour essayer de charmer l'autre. Il y a plusieurs éléments comme mettre le préservatif sur le pénis, mettre du lubrifiant. Et c'est là que je pense que ça va pêcher, parce que dans ma tête, quand j'imagine que je vais le faire, je vais devoir prendre un préservatif, je vais devoir l'ouvrir. Et je sais pas pourquoi l'idée d'ouvrir un préservatif, le bruit du plastique, le préservatif en latex qui sort, pour moi, je pense que, bah, que ça va me faire beaucoup rire. Donc je vais me demander comment est-ce que je vais introduire ce phallus à l'intérieur de moi. Et je sais pas, j'ai commencé à y réfléchir, tu vois. Et à mon avis, l'acte va me paraître complètement burlesque. La vision de ma future première fois a beaucoup évolué parce que, comme j'imaginais, c'était quelque chose de très propre, sans sueur, sans, je sais pas, limite avec du maquillage pour cacher les imperfections du visage et du corps. Pour moi, je pense que ça devait être quelque chose de très clinique, très propre, pas la réalité en fait. Et ça a beaucoup évolué, parce que maintenant, je vois ça d'une manière beaucoup plus sauvage, et je pense que c'est effectivement comme ça que ça l'est. C'est un moment où t'es complètement hors de toi. Le jour où j'aurai un orgasme, je pense que c'est un moment... On n'appelle pas ça la petite mort ? Si, on appelle ça la petite mort, hein. Bah moi, je comprends. Je pense que je peux comprendre pourquoi, parce que c'est quand même dingue. C'est, quand tu l'as pas fait, tu n'as jamais ressenti cette sensation-là de ta vie. Mais les fois où j'ai ressenti en fait le plaisir, c'était quand je faisais des rêves érotiques. Du coup, ben, je me souviens que j'étais très frustrée parce que je ressentais cette sensation et j'avais envie qu'elle soit plus forte, encore plus forte. Et à chaque fois, elle s'éteignait. Cette sensation. Et j'ai essayé de tout faire pour la retrouver et je n'arrivais pas. Donc je pense que le jour où je le ferai, ce sera cette sensation, mais en mille fois mieux, si je puis dire. Je pense en tout cas.
France Culture, les pieds sur terre. Se préparer, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Se préparer à l'amour, se préparer à son accomplissement ou à la déception, ça continue. Asdine, lui, s'est longtemps imaginé comment ça devait être Paris, ses artistes, sa vie culturelle. Sans le savoir vraiment, il s'est longtemps préparé à monter à la capitale. Il y est arrivé petit à petit, par étapes géographiques. Mais une fois arrivé au but, lui en est revenu, il a vu et il a su. C'est la deuxième histoire racontée par Sylvie Coma, Se préparer sur France Culture.
Moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de Franche-Comté, notamment le Belfort, Montbéliard, en l'occurrence Alstom et PSA. Parce que j'avais suivi une formation en CAP, BEP, fraiseur, tourneur, et ensuite un petit peu plus, j'ai pu aller jusqu'en BTS en fait, en passant par un bac professionnel. Mais voilà, j'étais né là-bas, dans cette région-là, donc mon orientation était toute faite. Hein. Bon, même si j'avais déjà un petit intérêt pour les langues par exemple, pour la littérature aussi... Mais néanmoins, j'étais parfaitement lucide. Je me voyais vraiment faire ma vie comme ça, de travailler en usine et d'avoir un métier, donc d'être tourneur, fraiseur. Pour moi, c'était un honneur de travailler pour un grand groupe comme Alstom, de dire que je contribuais à la réalisation de trains, de locomotives, de turbines. Pour moi, non, ma vie était tracée. Pour moi, je devais être ouvrier ou à la limite un ouvrier qualifié. Puis gagner ma croûte, sans avoir des rêves plein la tête. J'avais ces rêves, mais comme ça, c'était des rêves comme on a, voilà, comme n'importe qui a des rêves, hein, mais pas des rêves qui seraient réalisables, hein, tout simplement. Comme c'était plutôt des fantasmes, on va dire. Je gardais ça dans un petit coin de ma tête. Moi, j'étais fasciné par beaucoup de films que je voyais. Le meilleur jour pour moi de la semaine, c'était le mardi. pour regarder la dernière séance, quoi. Et bon, j'avais une fascination comme ça, et puis bon, bah, ça pouvait être le cinéma populaire, ça allait de Louis de Funès jusqu'à des péplums qui me faisaient rêver, hein, les fresques historiques, j'étais très très friand, hein, des Kubrick, les films de René Clair, des grandes œuvres, enfin qui narrent l'histoire tout simplement, quoi. Les grandes épopées. Puis un jour, j'ai décidé, après plusieurs désillusions dans le monde de la mécanique, que bah, finalement, je n'étais pas si doué, parce qu'à chaque fois, il fallait que je me réadapte à un nouveau produit, à une nouvelle usine, parce que bon, je n'étais pas toujours embauché, hein, et il y avait des missions intérimaires. Et c'est là que je me rendais compte des railleries de mes camarades. Bon, c'était gentil, hein, très souvent, ils disaient que j'étais peut-être plus destiné à faire de la couture. Et j'ai décidé finalement de tout plaquer, et petit à petit j'ai essayé de travailler dans d'autres domaines. Voilà, j'étais même cotonnier, on ramassait les poubelles. En plus, j'ai fait quand même pas mal de bénévolat aussi avec la ville de Belfort. Et ensuite, ils m'ont carrément embauché au festival d'entrevues, festival de cinéma, qui a une certaine cote au niveau de la critique. Et pour moi, c'était impressionnant de savoir qu'il y avait des critiques du Monde, des cahiers du cinéma. Pour moi, c'était vraiment des noms que j'avais pas l'habitude d'entendre, hein, avec Les Républicains et Le Pays, Franche-Comté. Et c'était plus de la logistique, hein. Ça pouvait être transporter les copies et conduire, être chauffeur. C'est drôle, on me donnait une liste avec les noms. On me disait voilà, il fallait que je mette une pancarte. Et donc, quand j'arrivais à la gare, j'avais l'habitude de reconnaître les gens qui venaient de Paris, étonnamment, avec leur allure, avec leur grand manteau, et puis ils avaient un foulard en plus autour du cou. Ça, c'est quelque chose que je découvrais, hein, pour moi. Finalement, j'ai rencontré une personne, Patrick, qui était donc sélectionné, hein, un film. Et puis, il y a eu un très bon feeling avec ce monsieur, d'une nature très courtoise, hein, un monsieur vraiment très raffiné. Et ça m'a fait plaisir. Il avait dit que j'étais un garçon bien élevé, parce que j'avais été très attentionné avec sa productrice qui avait une canne. Et voilà, et je portais leurs affaires, parce que c'était plus des gens très très jeunes, très costauds. Donc, et un jour plus tard, il m'avait vu, il y avait un dîner en commun, il m'avait demandé de venir à leur table, et c'est là qu'on a commencé à parler de beaucoup de choses, et c'est toutes des choses comme ça que je découvrais, hein. C'était comme ça d'un seul coup, hein. Et c'était assez, voilà, assez intimidant quand même. Et par la suite, Patrick on avait gardé contact. Il me voyait comme un personnage en monde d'apprentissage du 19e siècle, hein, une sorte de personnage qui avait vraiment un talent artistique, comme Rubin Pré, ou bien une sorte de Rastignac aussi, mais surtout, voilà, lui me voyait surtout comme un Rubin Pré ou un personnage de Flaubert. Par exemple, il disait que j'avais quelque chose comme Madame Bovary, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de trop coincé, j'étais trop enfermé dans ma région, et il fallait que j'éclos. Et donc, Patrick me disait en plus que je présentais la particularité d'avoir une double appartenance franc-comtoise, hein, comme je suis né là-bas, et aussi bon par rapport à mes origines marocaines. Et il voyait aussi que, à l'instar de Swann, personnage de Proust, pour lui, je présentais ce double handicap, comme Swann qui était donc juif et normand, qui allait conquérir Paris. Et puis lui, il détectait en moi quelqu'un qui avait l'œil du détail, l'œil de la narration. Il me voyait comme un grand cinéaste. Enfin, il pensait que j'avais ce talent. Alors c'est drôle, parce que Patrick, il fallait que je monte à Paris pour devenir un cinéaste. Et mes copains des bistrots populaires vers Belfort, et eux, ils me voyaient plutôt comme un comique, comme un rigolo. Hein. Ils me disaient, vas-y, va à Paris pour devenir comique. Mais bon, j'étais lucide néanmoins. En fait, je voulais surtout venir à Paris parce que je m'ennuyais terriblement dans ma région. Parce qu'à part ces deux festivals-là et certaines séances d'art et essai, je m'ennuyais énormément parce que bon, je ne m'épanouissais pas. Tandis qu'à Paris, je voyais que ce n'était pas du tout la même chose. finalement, un jour, voilà, j'ai décidé de monter à Paris. J'ai un ami qui a eu cette bonté voilà, de m'accueillir quelque temps chez lui. C'était vers Cergy. Je voulais être à Paris, mais surtout travailler dans le domaine culturel. Pas forcément être artiste, ou, mais je voulais vraiment découvrir. Et j'avais décroché un contrat avec la Cinémathèque française. Donc je travaillais là-bas avec la billetterie. Et c'était pas de très très bonnes conditions, mais c'était néanmoins intéressant parce que voilà, je découvrais ce haut lieu. Et donc tous les jours, j'apprenais énormément de choses. Hein. J'avais une boulimie de lire, une boulimie de voir beaucoup de films, de théâtre aussi, enfin voilà, une boulimie de tout ça. Et Patrick, c'était vraiment un trésor. Je pouvais parler avec ce monsieur jusqu'à 4-5 heures du matin chez lui. Hein, j'étais là, il me filait une théière, moi j'ai ramené une bonne bouteille de vin rouge. Et lui, voilà, il sifflait cette bouteille facilement et bon, il parlait, il était vraiment dans son monde à lui. Et d'ailleurs, il suffisait de voir le lieu où il habitait, un lieu très charmant, bah, avec cheminée, avec des tableaux, avec des livres. Pareil, c'est toutes des choses que je découvrais, ça aussi. Hein, des appartements comme ça, avec beaucoup de livres, énormément de livres. Et des beaux livres, des livres énormes, des livres anciens. Et ça, c'est quelque chose qui m'était étranger. Et ça, même des milieux plutôt aisés, que je côtoyais dans ma région, il n'y avait pas autant de livres. Et même des professeurs, ils n'avaient pas autant de livres chez eux, comme ça. Et ça, ça m'impressionnait. Chaque fois, voilà, avec mes petits réseaux, de temps en temps, on m'invitait à des fêtes. Et pour moi, c'était toujours agréable de voir ces planchers, comme ça, ces parquets, avec ces appartements bien décorés, ces meubles anciens. Et des fois, je restais des fois plusieurs dizaines de minutes, comme ça, à scruter, comme ça, ces bibliothèques bien garnies. Voilà, ça c'est quelque chose que je découvrais. À la Cinémathèque française, j'ai découvert aussi une forme de raffinement, de dandisme, une façon de parler que je ne connaissais pas. Et ce qui est drôle, ça me permet de rebondir sur l'accent aussi. Hein. Patrick me disait que j'évoluais en même temps que mon accent évoluait. Il fait « Zidine, vraiment, je vois que c'est impressionnant. Tu as vraiment, vraiment changé, vraiment ton accent. Tu as vraiment perdu ton accent. » Et alors, je le retrouve, mais quand je m'énerve. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que ça vient à la racine. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a aussi des expressions du dialecte marocain voilà, qui reviennent et mélangées au franco. Alors ça fait un sacré folklore. Et ça, c'est « Mais nom de Dieu, mais vain Dieu, mais Nadine, t'as cela, mais vain Dieu, celui-là, mais bordel de Nadine, tu veux pas faire le beau comme ça longtemps, hein, moi je te le dis. Hein. » Et voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Hein. Et voilà, et Patrick, ça le... Voilà, moi je rentrais un petit peu dans son jeu, mais j'avais toujours quand même cette lucidité. Et donc, voilà, il voulait que je travaille un court-métrage. Et une idée m'était venue de narrer, en fait, l'histoire d'un jeune homme, un stagiaire, qui est en bac pro et qui allait découvrir le monde de l'entreprise. J'avais franchi une sorte d'étape, quoi. Voilà. Et puis un soir, il s'est passé un truc. Lorsque je travaillais à la Cinémathèque, et c'était une soirée assez chargée, il y avait une avant-première d'un film d'Anne Fontaine dans lequel mon ami Patrick était invité. Et donc il y avait un buffet au-dessus, il m'avait dit « tu passeras ». Et après la séance, j'étais monté. Il se trouvait à côté d'un ancien ministre de la Culture, très connu, hein, donc Jacques Lang, est plutôt sympathique, il était donc et ce Jacques Lang, bon, discutait avec une autre personne qui symbolise, qui est la quintessence absolue de tout ce qui est culture au mondain. Et donc, bien sûr, naturellement, il fallait que je serre la main aussi à ce monsieur en question. Et donc, je lui ai tendu la main. Il m'a regardé avec un regard froid, comme ça, un regard mais vraiment très très sombre. Il était contre le mur. Et pendant ces quelques fractions de seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai senti même mon ami qui était troublé, parce que pour lui, il le considérait comme un gourou, c'était comme le roi de la cour. Finalement, il m'a tendu la main gauche, et d'une manière assez ferme, comme ça, comme s'il rejetait ma main. Et pour moi, la main gauche, c'est, on ne peut plus méprisant, c'est un peu la main du diable. Et c'est pas forcément la culture orientale, hein. C'est la main du diable, c'est la main du malheur, c'est la main de... Mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment... Parce que vraiment, il avait les deux mains libres, hein. Je dis, il se croisait les bras, il m'a regardé comme ça, il y a eu un laps de temps encore, hein. Et j'ai trouvé ça profondément humiliant. Et même si c'était pas ce qu'on pourrait appeler un vent, mais pour moi, c'était une tornade, c'était un cyclone, quoi. Et là, je peux te garantir que j'ai commencé. C'était dans ma tête, ça bourdonnait, l'accent revient, et des expressions arabes, dialecte pur marocain, et j'avais le poing serré, et j'étais à la limite de commettre un déplorable fait divers. Mais par respect pour mon ami Patrick, voilà, j'étais vraiment confronté à ça, quoi. Je voulais pas le mettre en porte-à-faux, dans l'embarras, quoi. En même temps, ça m'a pas non plus étonné. C'était une sorte de claque, un déclic, et là, j'ai eu la confirmation que ces gens-là, t'as rien à foutre avec ces gens-là, quoi. Il fallait pas changer la nature des choses, voilà. À travers cet épisode, après il y en a eu d'autres aussi, et je voyais que finalement il y avait pas mal de gens qui me méprisaient. J'étais un petit métallo, un sans grade. Et donc aujourd'hui finalement, j'ai laissé tomber évidemment ce projet de scénario. Et aujourd'hui donc je suis un petit sans grade encore, mais dans un autre domaine totalement différent, à la poste. Et néanmoins voilà, j'ai ma petite vie de quartier assez tranquille. Où je continue à, avec cette boulimie de connaître beaucoup de choses, et j'ai la chance de côtoyer un bistrot de quartier que je considère comme une université populaire, parce qu'il y a des gens extrêmement brillants dans plusieurs domaines. Ça va de civilisation, en histoire, il y a des grands érudits en peinture, il y a même des énarques, de tout, des journalistes, des gens que je pensais pas côtoyer à l'époque, et là je m'épanouis avec ces gens-là.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Se préparer, un reportage de Sylvie Coma qui signe son premier Pied sur Terre et à laquelle nous souhaitons la bienvenue. La réalisation était signée Emmanuel Geoffroy. Merci à Asdine ainsi qu'à cette mystérieuse jeune fille. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production. Vous pouvez nous envoyer des commentaires sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous devez vous abonner à notre podcast. Ça n'est pas très compliqué. Bientôt, on vous dira encore plus précisément comment on fait au cas où vous l'ignoreriez. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne. Restez sur France Culture. Il n'y a pas que les Pieds sur Terre.